À Rencontre spirituelle aujourd'hui, sera question de la bienheureuse Marie de l'Incarnation dont c'est la fête aujourd'hui. Elle est morte à Québec en 1672. C'est une vie assez exceptionnelle que celle de Marie de l'Incarnation, que je vous ai déjà racontée. Et je crois, pour simplement me servir d'un missel que vous connaissez, j'espère, le missel Effata. C'est un missel en 3 volumes qui est très pratique pour suivre la messe, la suivre chez soi, si on n'a pas le prions en église quotidien. Et en cette date du 30 avril, on écrit ce qui suit sur Marie Guyard, Marie de l'Incarnation. C'est très bref et ça résumera un peu les émissions que je vous ai déjà faites sur sa vie. Marie Guyard a vécu longtemps à Tours, en France évidemment, où elle est née en 1599, juste au tournant du siècle. Elle était la fille d'un maître boulanger qui était assez à l'aise. Et elle avait un caractère jeune et enjoué, Marie Guyard. Puis elle épouse, dès l'âge de 17 ans, un maître ouvrier en soie, parce qu'elle était poussée par sa mère un peu à ce mariage. Bon, un maître ouvrier en soie qui s'appelle Claude Martin. Un nom qu'on retrouve souvent ici dans ce pays. De ce mariage naît un fils, qui reçoit le prénom de son père, Claude Martin. Mais malheureusement, après 2 ans de mariage, elle est déjà veuve, à 19 ans. Alors Marie Guyard, avec son bébé, on pourrait dire, est prête à reprendre l'affaire de son mari, qui, je vous l'ai dit, était maître ouvrier en soie. Mais la médisance et la jalousie, encore une fois, l'enfoncent dans ses dettes, qu'elle s'applique quand même à rembourser jusqu'au dernier denier. C'est alors que ses intuitions, presque d'enfant, la soutiennent. Elle repousse un remariage. Elle n'a qu'un désir. Et c'est surprenant parce qu'elle a un bébé. Elle n'a qu'un désir, c'est de donner sa vie à Dieu d'une manière ou d'une autre. Puis, il y a une vision du chemin spirituel à parcourir qui la réconforte et qui l'affirme dans cette décision. En 1620, elle a 21 ans. Pourtant, on peut dire que pendant ces 20 années, les épreuves n'ont pas manqué. La volonté divine se fait un peu déroutante. Et là, bien, elle doit entreprendre d'autres années encore plus compliquées pour assurer la subsistance de son fils, Marie-Martin. Marie Guyard, devenue Madame Martin, s'engage comme servante chez son beau-frère, qui possède une entreprise de transport importante. Le transport, dans le temps, c'est des chevaux, des charrettes, c'est des choses comme ça, qui transportent toutes sortes de choses de Tours à des villes environnantes et même à Paris. Et ses talents d'organisatrice, bien qu'elle soit très jeune, vont bientôt la conduire à prendre la responsabilité administrative de ce commerce énorme. Et après 10 années, imaginez, jusqu'à 30 ans, quoi, elle travaille sans perdre le sens de la présence de Dieu. C'est ce que je vais essayer de développer avec vous aujourd'hui et de comprendre comment chez ces grands mystiques, en dépit d'un travail énorme, en dépit de tâches bouleversantes, elles ne perdent pas, ou ils ne perdent pas, ce sens de la présence de Dieu que nous perdons si facilement. Comment font-ils? C'est extraordinaire. Alors, elle se décide à entrer chez les Ursulines. Et elle laisse, après mûre réflexion puis un grand déchirement, son fils d'une 10aine d'années, chez sa belle-sœur. Et elle s'attire ainsi évidemment la réprobation de tout son entourage, abandonner son jeune fils. Son noviciat chez les Ursulines n'est pas tellement réconfortant, puisque elle y éprouve là toutes sortes de tentations et même des nuits spirituelles. Les nuits spirituelles, c'est des moments où on éprouve ça nous-mêmes, mais à des degrés bien divers. Où il semble faire noir dans notre âme, où on ne sait plus, on s'en va, où on se demande même si Dieu existe vraiment. Hein? Et ça l'a fait passer, ça, de l'état de révolte à celui de l'extase, heureusement. Et lors de sa profession, quand elle émet ses vœux, elle s'engage chez les Ursulines en 1635, elle prend le nom de Marie de l'Incarnation, et elle devient maîtresse des novices, et à 40 ans cette fois-ci, après une longue période de purification, elle part pour notre pays, pour le Québec, en 1639. La réalité est rude, hein? La colonie française est pauvre. Les conditions de vie sont plutôt extrêmement difficiles. Et surtout, il n'y a rien de très stable parce que les Français, nos ancêtres, la plupart d'entre nous, là, sont menacés par des attaques répétées des Iroquois. Si vous avez regardé un film un peu tardif à Radio-Canada hier, vous avez vu The Robe, La Robe. C'est un film tragique, n'est-ce pas, où l'on voit justement l'effroyable martyr qu'on fait subir à des catholiques et des prêtres. Mais tous les espoirs sont permis. Les Hurons et les Algonquins, heureusement, soutiennent les Ursulines. Ce sont de grands amis. Les Ursulines parlent le Huron, parlent l'Algonquin. Elles ont déjà rédigé des manuels religieux, un dictionnaire à leur usage. Et pourtant, cette femme, Marie de l'Incarnation, qui est de caractère et sans cesse, d'un caractère solide, et qui est sans cesse assaillie par les doutes et l'angoisse devant tout ça, et malgré l'expérience d'une très grande vie mystique fondée sur la Sainte Trinité, elle a des moments difficiles. Alors ne nous plaignons pas si nous en avons, quoi. Et l'année 1552 devient catastrophique. Les colonies françaises sont décimées, les querelles sont nombreuses. Marie de l'Incarnation s'offre alors pour sauver ce pays qu'elle a adopté, ce pays désolé, qu'est le Québec, le Canada. Et ce don total produit ses fruits. Très vite, il y a de nouveaux immigrés qui arrivent, comme le régiment de Carignan qui arrive en 1665, n'est-ce pas? Et sa congrégation s'étend, puis le renouveau s'amorce au Québec, au Canada, et c'est plus durable. Et après 20 ans encore de dévouement, elle meurt d'épuisement le vendredi 30 avril 1672. 72 ans, quoi. Et Bossuet va la qualifier plus tard de la Sainte Thérèse d'Avila, quoi, de la Nouvelle-France. Hein. C'est une très, très, très grande mystique. Et Jean-Paul II l'a béatifié le 22 juin 1980. Pour vous parler de Marie de l'Incarnation, je n'ai rien trouvé de mieux que le texte d'une Québécoise, Sœur Marie-Léon de Venise, de la Congrégation de Sainte-Croix. Elle portait ce nom à l'époque. Et c'était publié aux éditions Bellarmé en 1964. C'est introuvable, je vous préviens, on ne le trouve plus. C'est une chose absolument admirable. Cette religieuse géniale a écrit des choses remarquables. Et elle nous explique à un moment donné que la vie de la grâce, c'est la vie éternelle commencée, le face à Dieu dans l'obscurité ici-bas, en attendant quoi, le face à Dieu dans l'éblouissement de la gloire au ciel. Hein? Alors il faut avoir en soi, dit-elle d'une façon merveilleuse, il faut avoir en soi l'aube du ciel, une aube, vous connaissez ça, grand vêtement blanc, il faut avoir en soi l'aube du ciel pour en connaître le jour. Il faut avoir en soi l'aube, les premières lumières du ciel. L'aube, c'est aussi les premières lumières du matin. Et là, si on a ces premières lumières, on finit par en connaître le jour. Et la vie mystique, en effet, c'est que la vie chrétienne parfaite, et c'est ça qu'elle a vécu, Marie de l'Incarnation. En elle s'épanouit enfin la grâce du baptême. Et l'itinéraire des mystiques, c'est le chemin ouvert à chacun d'entre nous. Nous sommes tous appelés à ça. Les gens disent, ah oui, je parlais l'autre jour au père d'un prêtre qui a plus de 80 ans, il dit, oui, oui, Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une mystique, c'est une sainte. Il ne se sent pas appelé à ça, Pourtant, c'est un excellent catholique, mais oui, il est probablement mystique, mais un mystique plus simple, peut-être. Comment pourrait-on dire plus simple que Thérèse l'Enfant Jésus? C'est pas possible. Mais, disons, plus masculin. Alors, c'est le chemin ouvert, oui, l'itinéraire des mystiques, à chacun d'entre nous, à tous les enfants de Dieu, quoi. C'est le chemin où notre première grâce du baptême là, nous fait tous entrer. C'est pourquoi, sur le seuil du mystère de Marie de l'Incarnation, on va parler d'elle, là, il faut oser entrouvrir quoi le porche de cette littérature intérieure qu'elle a faite. C'est l'une des plus grands écrivains mystiques. La plus attirante de toutes, peut-être même. En tout cas, c'est la plus riche. Et c'est ce qu'il y a de plus beau écrit au Canada, au Québec. C'est absolument magnifique. En essayant de capter le sens profond de son message, là, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il faut absolument écouter d'abord ce qui suit. Elle écrit en quatre lignes l'essentiel. C'est dans son témoignage, ça s'est été publié, pardon jamais, sous le titre de « Témoignage de Marie de l'Incarnation ». Elle écrit « Si l'âme possède l'entretien amoureux de cœur avec Dieu », en somme, si on prie dans un entretien amoureux avec Dieu, ça peut être en lavant sa vaisselle, ça peut être à l'oraison proprement dite, ça peut être à l'église, alors qu'on participe à la messe. Il y a un entretien avec Dieu à la messe. Tout s'adresse au Père à la messe, à Dieu notre Père. Alors si l'âme possède l'entretien amoureux de cœur avec Dieu, les emplois n'empêchent pas l'union avec Dieu, le travail n'empêche pas l'union avec Dieu, mais les emplois laissent toujours l'âme dans son centre qui est Dieu. Et les emplois la disposent à une plus haute et plus parfaite union avec lui. Vous direz, c'est pas possible. Mais elle ajoute, je ne me trouve jamais mieux en Dieu que lorsque je quitte mon repos pour son amour, afin de parler à quelque bon sauvage, et de lui apprendre à faire quelque chrétien. Alors le prix de ces lignes si denses est extraordinaire. Ça tient surtout à ce que ces lignes contiennent un résumé très bref, très concis, très ferme, de sa conception de l'apostolat à Marie de l'Incarnation. C'est une conception qu'il convient de prendre à la lettre, oui, à la lettre, si on veut lui conserver sa valeur de témoignage authentique. Et c'est le meilleur moyen de ne trahir ni sa pensée, ni son message, qui est sublime, qui est une des plus belles choses qui soit, qui nous a été donnée ici dans notre pays du Québec. Et j'ai déjà assisté à une messe, les funérailles du père Béchard, jésuite, à Kanawake, qu'on appelait Kocnawaga autrefois. Et ces Indiens, que l'on appelle souvent des Iroquois, chantaient si bien que je me demandais si c'était une autre chorale. Et je me suis retourné pour regarder au jubé, et c'était eux, hommes et femmes, qui chantaient admirablement bien. Et ce chant au Kwam Suavis se traduit comme ça, « Ô combien suave, Seigneur, votre esprit, pour montrer votre tendresse à vos enfants, par un pain délicieux envoyé du ciel, vous comblez de bien les affamés, tandis que vous renvoyez sans rien les riches dédaigneux. » J'ai une petite goutte de sang à Benaki, ça me touche. Il est clair, entre les cas, qu'une action qui prend sa source en Dieu. Comme elle dit, elle, Marie d'Incarnation, je quitte mon repos pour son amour, ne peut conduire à d'autre qu'à Dieu, parce que ce n'est pas lâcher Dieu que d'aller vers ses frères, non. Donner Dieu, ce n'est pas s'appauvrir. C'est resserrer, au contraire, l'union. Elle le dit, d'ailleurs, je ne me trouve jamais mieux en Dieu que quand elle s'occupe des autres. N'est-ce pas lui qui se livre à l'âme avide et qui, après l'avoir rendue brûlante d'amour, la jette en plein combat? Car, comme le dit si bien Paul Claudel, l'esprit que Dieu insinue jusqu'au fond de nos cœurs, il faut qu'il ne lui revienne pas vide, mais chargé de matière et de substance. C'est dans « Seigneur, apprenez-nous à prier », on lisait ça autrefois, de Paul Claudel. Il semble que ce soit comme ça que Dieu veut nous apprendre à vivre, à vivre. Et plus les âmes avides de coopérer à l'œuvre de la rédemption, ou si vous préférez, de la libération des âmes, plus donc les âmes avides de coopérer à cette œuvre de libération des autres âmes se livrent à lui, plus le Seigneur les incarne en pleine masse humaine, d'une incarnation qui est la participation réelle à la misère des âmes, d'une incarnation qui produit la compassion. Quelle grâce qu'il nous faut chaque jour demander, la grâce de la compassion. Oui, d'une incarnation qui produit la compassion, puis l'héroïsme et de la charité fraternelle. La charité fraternelle, ça s'exerce dans la compassion, puis l'héroïsme souvent. Et ça se fait avec l'aide de l'Esprit-Saint. C'est pourquoi hardiment Marie de l'Incarnation prend ses frères et ses sœurs en charge, sans pour cela perdre de vue son Seigneur qu'elle aime. Et cette même doctrine, trois siècles plus tard, Sainte Thérèse de Lisieux l'expose à sa manière. C'est très beau, sa façon de le dire. C'est au tour, donc, rappelez-vous, de mai 1896, un an avant sa mort, que la petite Thérèse de Lisieux, travaillée par des espérances puis des désirs infinis, elle cherche le pourquoi, l'essence de sa vocation contemplative. Elle qui voulait être à la fois guerrier, apôtre, martyr, docteur, j'ai tout dit ça lundi, hein, elle exprime ainsi sa position. J'ai compris. Je vous rappelle le texte, il est si beau. Je vous le relis une deuxième fois en une semaine. J'ai compris que si l'Église avait un corps, composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous, ne lui manquait pas. J'ai compris que l'Église avait un cœur. Et que ce cœur était brûlant d'amour. J'ai compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile. Les martyrs refuseraient de verser leur sang. J'ai compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout. Oui, continue Thérèse de Lisieux, j'ai trouvé ma place dans l'Église et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve sera réalisé. Alors voilà comment, on peut dire, son tourment s'apaisait hein, dans la prise de conscience d'une vocation contemplative. Pour Thérèse de Lisieux, une vie qui porte en soi la totalité, on pourrait dire, des œuvres apostoliques, parce qu'elle coïncide avec la plénitude de l'amour. Alors c'est comme ça qu'elle apaisait son tourment. Il lui suffit d'aimer pour s'adapter au suprême, à toutes les sortes possibles d'actions. Pour promouvoir concrètement toute la croissance de ce corps vivifié par l'Esprit. Alors la bienheureuse Marie de l'Incarnation pense la même chose. Elle dont toute la vie n'est qu'une réponse d'amour à l'appel particulier du Seigneur et qui s'écrie, elle qui est à la fois contemplative, cloîtrée et active, une Ursuline, je me promenais dans ces grandes vastitudes, le Canada, et j'y accompagnais les ouvriers de l'Évangile auxquels je me sentais uni étroitement, à cause qu'ils se consommaient pour les intérêts de mon céleste et divin époux, et il m'était avis que j'étais même chose avec eux. Vous savez que la façon d'écrire qu'elle a, c'est une des plus beaux styles français de l'histoire de la langue française. On peut être fier que ça ait été écrit à Québec. C'est ici que la langue française a été écrite d'une des plus belles façons. Je continue ce texte de Marie de l'Incarnation. J'ai souffert une peine extrême de n'aimer pas assez. Car c'est une peine qui martyrise le cœur. Je voyais en esprit l'amour que tant de saints et de saintes ont eu pour lui. Et tout cet amour-là ne me suffisait pas, ne me pouvant souffrir avec un amour limité. Enfin, mon âme était insatiable, ne voulant que la plénitude de l'amour. Je suis comme les petits-enfants, dans mon impuissance. Tout ce que je puis faire, c'est d'attendre les volontés de l'amour sur moi, où il fera tout par sa pure bonté Ah, mon tout. Comme ça qu'elle appelle Dieu, mon tout, avec un T majuscule. Qu'est-ce que je veux de vous? Je veux l'amour, et ne veux plus que l'amour. Et voici que vous serez vous-même mon unique amour, ma miséricorde et mon tout. On voit la ressemblance de ces deux textes de Thérèse Lisieux et de Marie de l'Incarnation des siècles plus tôt. Ça nous amène à conclure, en somme, dans cette phrase de leur vie spirituelle, l'amour de Marie de l'Incarnation et de Thérèse, c'est l'amour qui est l'Esprit Saint, que l'on célèbre d'une façon toute particulière cette année pour nous préparer à l'an 2000. C'est l'amour qui est l'Esprit Saint qui les habite. Et c'est en aimant par l'acte même de l'amour infini qui est l'Esprit Saint qu'elles peuvent vivifier tous les membres du corps mystique. On peut faire la même chose. Avec un élan généreux et jamais ralenti, ces deux femmes se livrent à la grâce envahissante et crucifiante. Elles poursuivent sans cesse et à travers tout l'union avec le bien-aimé de leur âme. Le fils de Marie de l'Incarnation, Claude Martin, devenu bénédictin de la congrégation de Saint-Maur en France, lui expose ses nombreuses préoccupations et Marie lui donne ce conseil aussi discret que significatif. Si les affaires, soit nécessaires, soit indifférentes, font passer quelques objets dans l'imagination, ce ne sont que de petits nuages semblables à ceux qui passent sous le soleil et qui n'en ôtent la vue que pour quelques moments. Et encore durant cet espace, mon fils, Dieu, lui, au fond de l'âme, qui est comme dans l'attente, ainsi qu'une personne qu'on interrompt lorsqu'elle parle à une autre, et qui a néanmoins la vue de celui à qui elle parlait, elle est comme l'attendant en silence, puis elle retourne dans son intime union. Elle explique ça de façon superbe, peut-être un peu complexe à la lecture comme ça, mais en somme, elle retourne dans son intime union, et cette union est donc considérée comme le but de toute action, et non comme un moyen à son service. Elle est non pas à côté d'elle, mais au cœur même de l'action. Et durant cet espace, Dieu, lui, au fond de l'âme, il resplendit au fond de l'âme. Il est là, toujours, toujours.
Thank you.
De Foucault, vous la connaissez, celle du père de Foucault, hein? Si une parcelle nous semble si belle, combien beau l'être parfait qu'il l'a jeté comme une au monde, comme un sou donné à un pauvre. Hein? Si une fleur qui surgit, on les voit surgir actuellement, là. Si on les trouve si belles, si ces bourgeons qui jaillissent de nos arbres brisés sont si beaux, je dirais que le père de Foucault, combien est beau l'être parfait qui jette ses merveilles comme une aumône, comme un sou donné à un pauvre. Il y a plus forte raison un bébé qui naît ou qui s'annonce. Les âmes qui sont tout entières en accord avec Dieu sont comme blessées d'une blessure étrange, qui est ravivé par les choses d'ici-bas, simplement parce qu'elles ne sont pas lui. Elles ne sont pas Dieu, mais la blessure au cœur de ces contemplatifs ou de ces gens d'esprit mystique vibre. La blessure s'agrandit. C'est Saint Grégoire qui dit, après avoir connu la suavité de Dieu, l'amour du monde est blessé en nous, et nous boitons toujours. C'était écrit il y a 1500 ans. Celui qui a goûté Dieu, peut-il vraiment trouver la paix en jouissant de moins que lui? En jouissant de ce qui est moins que lui, moins que Dieu? Est-ce que c'est possible? Oui. Quand on est toujours avec Dieu. Marie, au milieu des flammes intérieures qui la ravissent et la torturent à la fois, demeure disponible. Cette Marie de l'Incarnation est extraordinaire. Elle se fait de plus en plus tout à tous. Elle travaille d'arrache-pied à Québec. Elle offre à Dieu le moyen qui permet au courant libérateur, on pourrait dire, de passer sans obstacle. Elle rapporte d'elle-même, je vous lis un de ses textes tirés toujours du témoignage. Vous savez que Don Jamais a publié en d'immenses gros volumes ses œuvres. Don Jamais, c'est un bénédictin français, qui est le plus grand spécialiste de Marie de l'Incarnation. Il est décédé. « Quelquefois, je me retirais pour tâcher de le caresser hors du bruit. » De caresser Dieu, quoi. « Aussitôt, l'on m'en retirait et je descendais joyeusement, lui disant, « Allons, mon doux amour, vous le voulez, c'est assez puisque je vous tiens. » Cette action-là est pour vous. Elle offrait donc une action qui la distrayait de sa contemplation. Cette action-là est pour vous. Je sentais une légèreté non pareille, faisant tout pour le bien-aimé. Toutes mes austérités ne m'appesantissaient point le corps. J'étais fort joyeuse avec ceux avec qui il me fallait être, et on croyait que je me plaisais avec eux. Mais c'était l'union que j'avais, écoutez bien ça, c'était l'union que j'avais avec Dieu qui me rendait ainsi gai et allègre. J'ai rencontré quelqu'un hier qui me donnait cette impression, un homme. Je crois qu'il vit ça. La gaieté était un trait constant du caractère de Marie de l'Incarnation, une femme joyeuse. Mais ce trait de gaieté était aussi ce fruit de l'Esprit-Saint dont parle saint Paul, le fruit de son union à Dieu, comme elle l'affirme elle-même. Parce que plus on est uni à Dieu, c'est normal, c'est dit dans la Bible, plus on est en joie, plus on peut regarder de haut, en somme, toutes les agitations du dehors, et plus on est en force. Les gens qui se noient dans leur malheur, dans leur souffrance, dans toutes sortes de choses, c'est parce que leur union à Dieu est comme tragiquement brisée, ça peut être psychologique. Mais ça peut être aussi parce que les malheurs sont très grands, ils ont des difficultés, ils n'ont pas notre aide peut-être, il faudrait qu'on les aide davantage. Mais vraiment, quand une âme est unie à Dieu, puis elle est en joie, à notre civilisation de mascarade, où le triomphe de la matière nous écrase et puis ça nous étouffe de toutes parts, où l'on ne songe plus tellement à Dieu, à notre siècle malade d'activistes, le Marie de l'Incarnation apporte des preuves pertinentes, il me semble, qu'à celui qui, d'abord et par-dessus tout, cherche le royaume de Dieu, bien le reste, tout le reste, est donné par surcroît. C'est comme ça qu'après avoir vanté les avantages de la vie monastique, elle écrira, par exemple, à son fils qui est moine, contemplatif, et un des grands savants de la congrégation bénédictine de Saint-Maur en France. Comme quoi il a bien tourné son fils qu'elle a abandonné quand il avait une dizaine d'années. Elle écrit la vie mixte à son tracas. Elle a la vie mixte. Elle est ursuline à Québec. Mais, dit-elle, écrit-elle à son fils, mais elle est animée de l'esprit de celui qui l'ordonne. Notre union n'est jamais plus imminente que dans les travaux soufferts à l'imitation et pour l'amour de Jésus-Christ. Oh, je vous dis cela pour vous faire voir que la vie mixte de cette qualité me donne une vigueur plus grande que je ne puis vous dire. Ça vaut la peine de retenir ça, nous qui sommes dans le monde, dans la vie mixte. Car il existe une vie mixte de qualités différentes et de beaucoup plus communes. C'est celle qui distrait en tirant l'âme au dehors. La vie mixte de Marie de l'Incarnation est celle, tout au contraire, où l'âme, dans son activité extérieure, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ne fait que donner la surabondance de sa contemplation. Elle demeure toujours en présence de Dieu. Je sais que c'est un vieux débat qui a commencé. Jésus-Christ était là quand ça a commencé. Le débat contemplation-action. Entre Marie et Marthe. Marie qui s'assoit à Béthanie au pied de Jésus, qui l'écoute. Elle savoure ses paroles. Et Marthe, qui est occupée, elle aimerait bien que Marie vienne l'aider. Et Jésus lui dit, Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Surprenant de la part de Jésus, au lieu de lui dire, bien, va donc aider ta sœur. Ou allons donc tous les deux aider ta sœur. Surprenant. Alors, le débat contemplation-action, Marie de l'Incarnation le tranche magistralement. Elle s'appuie sur la parole même du Sauveur. Cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par surcroît. Ce qu'elle cherche dans l'action, qu'il l'appelle, pour que ce que Jésus lui demande soit observé, c'est l'intensification de son effort de perfectionnement. Elle veut intensifier son effort de perfectionnement, de son union avec Dieu. Tout le reste, c'est-à-dire précisément l'exercice de l'action extérieure, est ce surcroît que Dieu s'est engagé à lui donner et par lequel Dieu va faire œuvre divine par son intermédiaire à elle. C'est paradoxal, surtout à notre époque de recherche de méthodes d'incarnation. Tout le monde veut être incarné. On parle de ça continuellement depuis des années. Il y a un rappel merveilleux de cette vérité primordiale auquel il faut bien penser. L'apostolat n'est pas une entreprise humaine où le dévouement, le tact, l'intelligence suffisent. Ça suffit pas, ça. L'apostolat, ça peut pas être uniquement humain. C'est avant tout un fort abandon à la volonté du Seigneur, comme j'essayais de vous l'expliquer lundi dernier avec Thérèse Enfant Jésus. C'est un abandon qui lui permet à Dieu d'agir lui-même à travers nous. Avant d'être un exploit, la sainteté, c'est d'abord une soumission. Un abandon, quoi. C'était ça l'émission de lundi. Il serait facile d'objecter que c'est en vertu d'une grâce spéciale, le recueillement infus, comme on appelle ça en langage mystique, que Marie de l'Incarnation, puis d'autres âmes privilégiées dont je vous parle de temps en temps, sont parvenues à un contact quasi ininterrompu avec Dieu. Peut-être. Mais à défaut de penser sans arrêt à Dieu, la pensée fondamentale demeure compatible, il me semble, avec les fonctions puis les occupations les plus disparates, comme avec cette espèce d'étrange structure de notre esprit. À défaut de recueillement infus, comme je viens de vous dire dans le langage théologique, reste possible quand même un recueillement acquis, servant à l'autre de préparation sans y donner droit, diraient les théologiens. Je m'explique. François Mauriac explique ça très bien. Il parlait un jour de sa mère. Il nous dit qu'un pli barrait parfois son visage à sa mère pendant qu'elle s'adonnait aux tâches domestiques, là, particulièrement à la cuisine. Et c'était le signe que le contact avec la présence était momentanément perdu. Elle ne priait pas sans interruption, mais installée dans l'état de prière, dit François Mauriac, elle réalisait le paradoxe évangélique « A portet semper orare », comme on disait quand j'étais jeune, il est important de prier constamment. Il convient de prier toujours. Est-ce que c'est ça qu'on attend du chrétien véritable? Bien oui. Pour Marie de l'Incarnation, le dialogue amoureux qu'elle entretient avec le Seigneur est si intime. Même alors qu'elle est Madame Martin, là, avant d'entrer chez les Ursulines à Tours, que la relation de 1633, celle de Tours, rapporte ce qui suit, c'est très beau. Écoutez bien ça. Elle parle de son état de laïc qui travaille dans une compagnie, qui gère une compagnie très importante de chartier, comme je vous expliquais. « Ni le bruit des rues, écrit-elle, ni ce que j'avais à traiter avec les marchands, ni tous les soins dont j'étais chargé, ne me pouvaient tirer de la liaison intérieure que j'avais avec la divinité. Il me fallait accommoder à tout, il fallait que je m'adapte à tout, quoi. Et cela ne me distrayait point de jouir de Dieu. » Extraordinaire. Il paraît qu'on est tous appelés à ça. Hein? C'est qu'on n'ose pas. Moi le premier. Il faut bien comprendre que l'amour, dit Sœur Marie-Léon, que l'amour ne donne pas de relâche à son cœur. En tout lieu, il est agissant. Qu'elle marche par la ville ou qu'elle soit occupée aux travaux domestiques, rien ne l'empêche de déclarer à Dieu qu'elle l'aime. Quand l'impétuosité de son amour est trop violente, il arrive qu'elle soulage son cœur en écrivant les mouvements de sa passion amoureuse. Je vous lis ce beau texte. « Ah, amour, mon cœur soupire après vos demeures éternelles pour voir votre unique beauté et jouir de votre douce et désirable union, dont votre bonté donne un avant-goût à vos bien-aimés par la participation que vous leur en donnez. Vous êtes notre trésor, notre vie, notre amour. Qui donnera à mon âme qu'elle rompe sa prison? Que l'amour fasse à ce corps une porte et une ouverture assez grande pour la faire sortir, afin qu'elle demeure éternellement captive en vous. » Évidemment, c'est du langage d'une grande mystique, hein? Ne prenez pas peur, là. Laissez-vous prendre, c'est beau, je continue. « Mon doux amour, mes délices adorables, ne savez-vous pas que mon désir est véritable? Que je sois donc toute vôtre, quand vous êtes tout mien, possédez-moi, et que je vous possède par un mélange d'amour, ô mon cher tout, ô mon amour, ô mon unique désiré. » Elle parle à Dieu. Trinité. C'était là écrit-elle, mes entretiens, parmi les tracas, dans l'oraison et par les rues. Et en quelque lieu que je fusse, je languissais d'amour. Elle était laïque, elle était comme ça. Quand on y pense comme il faut, peut-être que ce que je vous raconte vous semble un peu trop compliqué, mais quand on y pense comme il faut, on pourrait dire que la structure même de l'action surnaturelle suppose que l'âme se tourne par la contemplation vers le Père. Quand on va à la messe, l'acte primordial des catholiques en particulier, c'est vers le Père que l'on adresse nos prières. Alors, l'âme se tourne par la contemplation vers le Père pour que la transmission des richesses divines s'opère efficacement. Et c'est Claudel, Paul Claudel qui le dit, c'est tellement beau de penser que Dieu lui-même, à tout moment, se met à notre disposition. Il faut croire que le développement de notre apostolat, de nos actions, pour faire du bien, ne se fera pas principalement par un progrès des techniques, oublions ça. Les techniques sont nécessaires pourtant. Mais ça ne peut se faire bien et magnifiquement que par un progrès dans l'élan vers Dieu. On oublie ça souvent, l'élan vers Dieu. Je vous cite le Père Voyaume, lors d'une conférence, fameux Père Voyaume. Il traite d'une spiritualité évangélique un jour, une spiritualité évangélique pour notre temps. Il apporte le témoignage des jeunes. On n'écoute pas assez souvent les jeunes, qui sont élevés dans une ambiance de technique puis d'élan dynamique. Qu'est-ce qu'ils disent, les jeunes? Ils nous disent très, très souvent, seuls les contemplatifs nous intéressent. Quand ils vont dans des monastères, puis ils cherchent souvent à aller en Asie pour voir des moines bouddhistes, c'est ça qui les intéresse, dans les ashrams hindous. Mais ils ont aussi un goût pour les bénédictins, les trappistes, les cisterciens, les carmélites, les visitandines, les adoratrices du Très-Saint-Sacrement, etc., les clarisses. Les jeunes ne sont pas impressionnés par des activités charitables ou des réalisations d'œuvres, si généreuses soient-elles. Cela, ils en sont capables. Ça les impressionne jusqu'à un certain point pour susciter en eux le désir d'en faire autant, mais sur le plan spirituel, pas nécessaire. C'est pas cela qu'ils attendent, précise le Père Voyaume. Ils rejettent pas ça. C'est pas ça que je dis, là. C'est bien. Et le Père Voyaume dit, il y a là un fait qui mérite d'être souligné. Car je ne pense pas qu'un chrétien puisse aujourd'hui, moins que jamais, révéler le visage du Christ uniquement par des œuvres extérieures, même celles de la plus généreuse charité, si sa vie ne laisse pas transparaître un regard sur Dieu. Or, Marie de l'Incarnation avait ça. C'est une loi de la stratégie de Dieu, ça, démontrée par l'action fantastique de tant de saints dont j'ai eu le bonheur de vous parler au cours des 3 dernières années. C'est fondamental. La sollicitude de Marie de l'Incarnation est large et profonde comme l'océan. Plus elle donne, plus il lui reste à donner. Toute son activité extérieure est tellement enflammée d'amour pour Dieu que loin d'amener une diminution de force, elle occasionne un accroissement de grâce et contribue à alimenter son oraison. Ben oui, ça lui fournit des motifs en chair et en os, de supplication puis d'approfondissement, hein. D'ailleurs, saint Ambroise de Milan, qui a vécu il y a plus de 1500 ans, disait « Le principal aiguillon de la piété, c'est la compassion que nous avons pour les malheureux. » Et Marie de l'Incarnation, ben, elle l'expérimente tous les jours. Aimée par un don et un abandon de chaque instant. Notre âme, au dehors, ne trouve que dissipation et absorption. Comme une eau qui s'écoule, c'est en Dieu seulement plutôt qu'elle se rassemble, notre âme. C'est en Dieu qu'elle s'accroît. Notre Père Céleste s'applique davantage au gouvernement d'un cœur où il règne qu'au gouvernement naturel de tout l'univers, quand on y pense, puis au gouvernement civil, évidemment, de tous les empires. Oui, notre Père Céleste s'applique davantage au gouvernement d'un cœur où il règne. Dieu a un amour particulier pour ses saints, qui se donne à lui. L'intimité d'une âme avec Dieu le glorifie davantage. que tout le bien possible procuré par un grand nombre d'âmes, même au détriment de sa propre vie intérieure. Jamais le Dieu des œuvres actives là, ne doit être délaissé pour les œuvres de Dieu. C'est ce qu'écrit sœur Marie-Léon. Dieu, dit Bossuet, ne sort pas de lui-même pour trouver son bonheur, mais l'âme ne peut être heureuse que par un transport. Ce transport qui n'est à la vérité qu'un retour qui réjouit Dieu. Pensez à la mère qui donne tout à son enfant et n'en attend rien. Mais elle lui doit le bonheur de son propre dévouement, puis l'honneur de sa maternité, c'est comme ça. Hein? J'aime bien ce qu'écrit sœur Marie-Léon. On dirait que le Seigneur va jusqu'à trouver en nous comme une extension de lui-même, plus précieuse que lui-même, puisqu'il s'y consacre, puisqu'il est descendu de son trône pour nous y faire monter, qu'il veut nous envahir et se donner dans l'exacte proportion de l'accueil, de l'union, union qui doit être effective et pleine d'hommage. Union sur laquelle Marie de l'Incarnation revient sans cesse. Elle écrit, elle, quoi que je fisse la cuisine, que le tracas du ménage fût grand, que j'entendisse le bruit de plus de 20 serviteurs grossiers et mal instruits, ça c'est quand elle était laïque, et même plus tard, que j'eusse le soin de tout le négoce de mon frère à Tours, tout cela ne me pouvait distraire. Quand j'eusse employé tout le jour à parler d'affaires nécessaires, cela ne m'eût point tiré de cette grande vue de Dieu. Avouons que Marie de l'Incarnation est un être d'exception avec des grâces spéciales. Oui, des grâces spéciales de Dieu, mais la solution de Marie de l'Incarnation est quand même admirable et pour le moins enviable. On peut objecter notre bassesse. Mais elle dit « Mon âme est à l'amour et l'amour est à mon âme ». Elle veut être rien et qu'il soit tout. Et c'est en cela qu'elle trouve son contentement. Oh, elle dit aussi quelque chose de magnifique. « Je ne me trouve jamais mieux en Dieu que lorsque je quitte mon repos pour son amour. » Quelle femme magnifique que cette Marie de l'Incarnation qui a écrit cette prière, c'est par le cœur de mon Jésus, ma voix, ma vérité, ma vie, que je m'approche de vous, ô Père éternel, par ce divin cœur, je vous adore. Pour tous ceux qui ne vous adorent pas, je vous aime pour tous ceux qui ne vous aiment pas. Je vous reconnais pour tous les aveugles volontaires.